Nous sommes en compagnie de Boris Grésillon, Jérôme Vaillant et Pierre Verluise à propos de À l'Est du Nouveau, ce cycle de rencontres proposé dans le cadre de Lille 3000 et la Bibliothèque municipale de Lille pour une approche géopolitique, historique et littéraire de cette nouvelle Europe née il y a 20 ans à la chute du mur de Berlin. Pierre Verluise est docteur en géopolitique, chercheur à l'IRIS et directeur du site géopolitique-diploweb.com. Il est aussi directeur du séminaire sur l'Europe au Collège interarmées de Défense. Il est l'auteur d'un livre qui tombe à point, 20 ans après la chute du mur, l'Europe recomposée, édition Choiseul, qui vient de paraître juste il y a quelques semaines, et puis aussi de Fondamentaux de l'Union européenne et d'une nouvelle Europe, comprendre une révolution géopolitique. Boris Grésillon est agrégé de géographie, maître de conférences à l'Université de Provence et spécialiste de Berlin où il a vécu 6 ans en tant que chercheur associé au Centre Marc Bloch. Il est l'auteur de Berlin, métropole culturelle, aux éditions Belin, un énorme ouvrage. Jérôme Vaillant est professeur de civilisation allemande contemporaine à l'université de Lille 3 et directeur de la revue Allemagne d'aujourd'hui et des presses universitaires du Septentrion. Alors je pose la question peut-être à Pierre Verluise pour commencer. Comment la guerre froide a-t-elle modifié la géographie de l'Europe ?
La guerre froide commence officiellement en 1947. On pourrait faire remonter la délimitation un peu plus tôt. Les Polonais la font remonter à août 1944 lors de l'insurrection de Varsovie. Soit-il qu'à partir de ces années-là, il y a une nouvelle donne. L'Europe se retrouve divisée en deux, avec deux blocs. Le bloc de l'Est autour de l'Union soviétique, le bloc de l'Ouest autour des États-Unis. À l'Est, il y a une économie planifiée, une idéologie communiste, une dissidence qui se trouve enfermée ou parfois déportée, ce qu'on a tendance à ignorer. Et à l'Ouest, une économie de marché, une mise en place de la démocratie et généralement des relations plutôt positives avec les États-Unis. Et ça dure jusqu'en 90, fin de la guerre froide, avec des stratégies que j'ai essayé de mettre à jour dans cet ouvrage. Stratégie des États-Unis d'abord, qui ont été sur toute la durée très actifs et particulièrement... par exemple, sur le plan radiophonique, Voice of America, Radio Free Europe, ce sont des éléments de la guerre froide. Des radios que les personnes qui vivaient en Europe de l'Est écoutaient attentivement, soit dans leur langue, soit en anglais. Et puis, c'est aussi à partir des années Reagan, au début des années 80, la mise en place d'une stratégie qu'on a appelée l'initiative de défense stratégique ou bien la guerre des étoiles, qui visait... en apparence à construire au-dessus des États-Unis un bouclier spatial contre les missiles soviétiques, mais en fait l'objectif était tout à fait autre, c'est ce qu'on n'a pas compris à l'époque en France notamment. L'objectif était tout simplement de relancer la course aux armements pour pousser à l'asphyxie l'URSS, et ça a plutôt bien marché, notamment parce que les États-Unis ont réussi à mettre dans le coup, entre guillemets, le pape Jean-Paul II, qui se trouvait être polonais, et avoir lui aussi l'intention de mettre l'Union soviétique en difficulté. Donc il y a eu une espèce de synergie, même si on ne peut pas parler de complot. Le pape, en tout cas, ne s'est pas dressé contre cette stratégie, ce qu'il aurait pu faire, en toute logique. Côté soviétique, il y a aussi une stratégie qui visait, avec Gorbatchev, entre 85 et 91, à faire croire à une évolution qui n'était pas tout à fait celle qu'on disait, à travers la glasnost, la perestroïka, faire croire que l'URSS devenait un état de droit, une économie de marché, ce qui est un peu plus discutable, toujours est-il que, dans le même temps, tout en attirant les capitaux, notamment français, mais encore allemands, britanniques, ils ont organisé une fuite des capitaux soviétiques à destination d'un certain nombre de paradis fiscaux, et essayer de se mettre en position de force. Il n'empêche que stratégie, il y a eu, mais... beaucoup de gens ont des stratégies, toutes ne gagnent pas. Et c'est la stratégie américaine qui l'a emportée, puisqu'à partir de 89, chute du mur de Berlin, chute du rideau de fer, phénomène que bien peu de gens avaient osé envisager quelques années plus tôt, ce qui conduit à une certaine modestie, puisque qui, au début des années 80, aurait mis un franc sur la table sur la fin du rideau de fer? Alors, bien sûr, on pourra trouver quelques... ligne à droite et à gauche, mais admettons que ça n'était pas si simple. Moi, j'ai mis les pieds pour la première fois en Union soviétique sous Andropov en 83. Je vous garantis que j'ai n'ai pas eu la sensation que le système allait s'écrouler dès que je serais en bas de l'avion. C'est un régime qui donnait une impression de force, de puissance, et il y avait des forces tout à fait importantes. Il n'empêche que, en 89, Moscou, le régime de RDA, laisse passer la population d'est en ouest à Berlin. C'est un fait, ça s'est passé comme ça, et ça a injecté des forces qui conduisent jusqu'à fin décembre 89, avec ce qu'on a appelé la révolution roumaine, qui ressemble bien davantage à un coup d'État, la fin de Ceausescu contre un mur avec quelques balles dans le corps, ce qui n'est pas particulièrement brillant, c'est le moins qu'on puisse dire. Il n'empêche que entre le mois de novembre et le mois de décembre 89, la plupart des pays d'Europe centrale et orientale ont vu leur régime changer.
Alors Jérôme Vaillant ou Boris Grésillon, quelle est votre analyse de cette chute du mur de Berlin?
Je voudrais d'abord dire que je partage largement l'analyse faite précédemment.
Jérôme Vaillant.
J'ai été moi-même un peu l'auditeur de certaines remarques faites en RDA au moment de l'ère Reagan, où, pour ce qui était de la guerre des étoiles, je crois qu'on avait parfaitement compris le message, qu'il s'agissait de saigner l'Union soviétique et la RDA en obligeant effectivement à faire un effort à nouveau en matière de réarmement que la RDA serait parfaitement incapable de tenir. Alors j'ajouterais peut-être dans les éléments la charte de Helsinki, parce que je pense qu'en RDA même, ça a joué un très grand rôle, de façon d'ailleurs assez paradoxale, alors que la charte d'Helsinki n'a été publiée que partiellement dans les journaux occidentaux, parce qu'on en connaissait l'essentiel de toute façon. Le Neues Deutschland, l'organe du parti communiste de la RDA, a tenu à publier in extenso les conclusions de la charte d'Helsinki, ce qui a donné aux Allemands de l'Est qui voulaient quitter légalement la RDA la possibilité de se recommander de cette charte, et cela a provoqué un mouvement, je dirais, de volonté de départ d'Allemagne de l'Est vers l'Allemagne de l'Ouest, puisque là, il faut bien dire qu'il y avait cette spécificité de l'Allemagne, c'est que ce qui explique aussi qu'il n'y ait pas eu une dissidence semblable en Allemagne de l'Est. Quand on ne s'accommodait pas du régime, on cherchait à rejoindre l'Ouest, soit par la fuite, soit aussi en se faisant racheter par le gouvernement à l'époque de Bonn. Et j'ajouterais peut-être un élément du côté de l'analyse faite de Gorbatchev. Je crois qu'effectivement, en Allemagne de l'Ouest, on s'est largement fait des illusions sur ce que Gorbatchev voulait. Gorbatchev, sans doute lui-même. Je pense que Gorbatchev a essuyé un échec historique, alors que son objectif était, au fond, de rendre le communisme suffisamment moderne pour empêcher sa disparition, une forme, pourrait-on dire, toute proportion gardée, un New Deal gorbatchevien pour éviter l'effondrement du communisme. Et finalement, il n'a pas été à même de le faire à cause du monolithisme qui expliquait aussi la force fort bien évoquée précédemment.
Ça veut dire que c'était peut-être pas possible de réformer le communisme.
C'était sans doute, effectivement, je crois que c'est cela qu'il faut dire, le communisme tel qu'il était pratiqué en tout cas n'était pas réformable. Dès l'instant qu'on se mettait à le changer, on le condamnait au fond à s'effondrer.
Alors Boris Grésillon, vous êtes plus jeune, 1989 et la chute du mur, vous voyez ça comment?
J'avais quand même 20 ans, donc...
Oui, certes. Ah bah alors...
j'avais déjà largement franchi ce qu'on appelle l'âge de raison. Non, plus sérieusement, j'avais certes 20 ans, mais j'ai raté le coche, moi, sur un plan personnel. Alors là, pour le coup, je m'en voudrais toujours, parce que je pense que alors que j'ai fait des études d'histoire-géographie, donc il faut le faire... J'avais pas assez le sens de l'histoire. Et alors qu'on voyait quand même ce mur s'effondrer sous nos yeux, finalement, moi, j'ai pas fait partie des gens qui, comme certains de mes amis, ont pris leur voiture, sont partis de Paris ou de Lille d'ailleurs, pour aller à Berlin, pour voir sur place ce qui se passait, sachant que un mois et demi après la chute du mur, c'était les vacances de Noël, partout en Europe et donc aussi en France. Et donc on avait vraiment la possibilité, par exemple, d'aller fêter la Saint-Sylvestre sur les décombres du mur de Berlin. Donc,
et c'est d'ailleurs ce que j'ai fait.
C'est ce que beaucoup de gens ont fait, et c'est ce que moi, malheureusement, je n'ai pas su faire et que je regretterai toujours. Mais au-delà de mon cas personnel, bien sûr que malgré tout, j'avais comme tout le monde conscience de l'événement, de la portée d'un tel événement. J'ajoute aussi, par rapport à ce qui a déjà été dit par Pierre Verluis, qu'on en avait tous d'autant plus conscience, on était tous d'autant plus frappés par cet événement majeur, que rien ne pouvait laisser présager. Il ne faut pas oublier que Erich Honecker lui-même, donc le secrétaire général du Parti communiste est-allemand, donc le chef du régime est-allemand, au 1er mai 1989, donc on est à 6 mois avant la chute du mur, a trouvé quand même le moyen de dire que le mur serait encore là pour 1000 ans.
Ah oui, c'était très visionnaire.
Oui, c'était très visionnaire. Et ce n'était pas simplement une espèce de parole politique pour justement dire que, sentant déjà que le régime commençait à s'effriter, il disait le contraire. Non, je pense que la plupart des dignitaires du SED, donc du Parti communiste est-allemand, en tout cas au mois de mai et jusqu'à l'été, ne pouvaient absolument pas s'imaginer que le mur s'effondrerait si vite.
Et donc ils ont eu un choc, évidemment.
Tout le monde a eu un choc. Alors, bien sûr, en même temps, une fois qu'on a dit ça, il faut quand même dire aussi que le mur n'est pas tombé en une nuit.
Oui, c'est vrai.
Il y a eu ces fameuses, notamment, Montagsdemonstration, donc les manifestations du lundi, à Leipzig, depuis le printemps, en gros, depuis le printemps 89, qui montait en puissance. Berlin a pris le relais aussi. Il y a eu cette énorme manifestation qui, à mon avis, quand même, elle a commencé, si j'ose dire, à créer des fissures dans le mur de Berlin, qui est celle du 4 novembre 1989, sur l'Alexanderplatz à Berlin, qui a réuni 1 million de personnes.
Ah, je vois Jérôme Vaillant qui fait non de la tête.
Je laisse Boris.
Et vous répondrez après.
En général, nous sommes d'accord sur l'essentiel. Là, je mettrai un petit bémol, parce que je pense que la date essentielle est antérieure de quelques semaines. Non, mais
Boris Grésillon finit, et après, Jérôme lui répond.
Non, je suis d'accord avec la nuance apportée. Vous imaginez bien qu'un événement majeur comme celui-là ne se produit pas en quelques jours, ni même en quelques semaines. Donc c'est vrai que, en tout cas, depuis le printemps et l'été 89, le mur se fissurait de partout. Il ne faut pas non plus oublier que l'ambassade de Hongrie avait déjà ouvert un peu ses portes aux ressortissants de la RDA, donc leur permettant d'une certaine manière de s'exfiltrer de leur pays. Mais je voulais simplement dire que, voilà, parmi tous cette chaîne d'événements, il y en a eu un quand même qui, moi, me semble important. C'était donc cette fameuse manifestation du 4 novembre, donc 5 jours avant la chute du mur, qui a réuni... Pourquoi il est important ? Parce qu'il a réuni absolument, on peut dire, toutes les composantes de la population est-allemande. Y compris celle à laquelle moi je me suis plus particulièrement intéressé dans mes travaux sur Berlin et sur l'Allemagne, c'est-à-dire les artistes. Les artistes, metteurs en scène, comédiens, tout ce que vous voulez, qui ont pris la parole, qui ont dit des choses très fortes, et qui avaient par définition, si on peut dire, l'assentiment de la population. Et là on a vraiment senti un mouvement de fond, un mouvement très puissant, et là je pense que si le régime est-allemand ne l'avait pas déjà senti avant, au moins ce jour-là, il ne pouvait plus dire qu'il l'ignorait.
Bon, eh bien, les artistes, le monde de la culture dans la lutte politique...
Ah ben, ils sont toujours pionniers, les artistes.
Hein. Jérôme Vaillant, une petite réaction ?
Oui, alors, je pense que là, nous avons une approche différente de ces deux manifestations certainement importantes, celle du 4 novembre à Berlin, et celle, surtout, à mes yeux, beaucoup plus importante, du 9 octobre à Leipzig. Alors, pourquoi faut-il relativiser, à mes yeux, l'importance de la manifestation du 4 novembre sur l'Alexanderplatz à Berlin ? Eh bien, d'abord, parce que je crois que c'est, à tous égards, une manifestation non seulement soutenue par la Stasi, donc soutenue par les éléments réformateurs et conservateurs du régime est-allemand, avec des artistes qui sont venus, et c'est vrai que cette manifestation s'est faite à l'initiative de nombreux artistes, mais qui sont plutôt des artistes qui cherchent à prévenir l'effondrement de la RDA, qui veulent préserver la RDA et la préserver comme un État autonome à venir, alors qu'on sent bien déjà à ce moment-là que c'est peut-être en train de partir à volo. Donc je ne pense pas que ce soit tellement une grande manifestation de contestation, mais plutôt de récupération possible de la RDA, alors que la grande manifestation du lundi 9 octobre, dans la tradition des manifestations du lundi de Leipzig, qui a mérité à cet égard, même si c'est un peu, je dirais, emphatique de le dire de cette façon-là, le terme de la qualification de ville héroïque, c'est là que l'essentiel s'est joué. Pourquoi ? Parce que au moment de cette manifestation qui se veut délibérément pacifique, alors que le pouvoir avait pris des mesures pour éventuellement appliquer ce qu'on a appelé soit la solution chinoise de Tiananmen, soit la solution chilienne, où on avait quand même fait le maximum pour encercler la ville pour le cas où il y aurait, une évolution qu'on ne souhaitait pas, le parti décide de ne pas intervenir. Et je pense que l'on peut dire que effectivement, le 9 octobre, le parti est cédé, dans la mesure où il y a eu déjà un changement de personnalité au pouvoir, et que c'est Gonkrenz, qui n'avait pas une grande envergure, mais enfin, il voulait au moins être réformateur, à l'inverse de Erich Honecker. Le SED décide à ce moment-là qu'il faut écouter les manifestants dans la rue, parce que ce n'est pas une contre-révolution, mais que on dit dans la rue ce qu'il faut prendre au sérieux. Et je dirais c'est le jour où, quelque part, on peut dire que le SED lui-même se saborde. En bonne logique, si le SED voulait rester au pouvoir, il aurait dû dire « c'est une contre-révolution ». Dans la logique de la doctrine marxiste-léniniste, ce qui se passait en RDA était une contre-révolution.
Bien sûr.
Qui s'en prenait, délibérément au rôle directeur du parti communiste au pouvoir. On le voit bien dans les programmes de toutes les nouvelles formations politiques à partir de septembre 1989. Et je pense que à dire il faut écouter la rue, donc il ne faut pas réagir comme si c'était une contre-révolution, le SED abandonne le pouvoir et crée une vacuité de pouvoir qui va être inévitablement remplie par, d'abord, l'idée qu'on pourrait transformer la RDA pour en faire une bonne démocratie socialiste, et au bout du compte, face à une vaguité de pouvoir telle, eh bien l'idée qu'il n'y a de solution que dans l'unification.
Alors, Pierre Verluise, vous dites dans votre ouvrage que Paris était contre la réunification de l'Allemagne, donc Paris à l'époque c'était François Mitterrand, lui non plus n'était peut-être pas très visionnaire.
Il est toujours très difficile, regardons aujourd'hui avec humilité, la façon dont nous avons du mal à prendre la mesure de la crise économique. Bien malin, qui aujourd'hui est capable de vraiment comprendre, voire expliquer, ce sera encore mieux, ce qui se passe et ce qui va se passer. Donc là, c'est un autre exemple d'une véritable révolution géopolitique. Il est vrai qu'un certain nombre d'indices montrent que l'entourage de François Mitterrand et François Mitterrand lui-même ont eu du mal à saisir ce qui se passait, et qu'il y a eu un certain nombre de maladresses que les Allemands ont eu l'élégance et la délicatesse de ne pas relever, alors que depuis 1963, le traité de l'Elysée faisait de la France et de l'Allemagne des pays théoriquement très proches, non sans des tas d'ambiguïtés qu'on pourrait détailler par ailleurs, par exemple dans la relation aux États-Unis. Il n'empêche qu'au moment où Bonn avait besoin d'un soutien ferme, franc, massif de Paris, c'est plutôt du côté de Washington qu'il y a eu ce soutien. L'ambassadeur des États-Unis à Bonn était général Walters, je l'ai rencontré, et c'était, comme par hasard, un des inspirateurs de la stratégie des États-Unis, connue sous le nom de la guerre des étoiles, décidée début des années 80 dans le bureau du président des États-Unis. Comme par hasard, le même homme était à Bonn et a donné au président Bush, père, la consigne de plutôt soutenir la réunification de l'Allemagne. Donc il y a eu un moment de flottement, mais qu'il faut comprendre de manière, à mes yeux, non polémique. Il est toujours très difficile de voir le monde tel qu'il est sous nos yeux.
Mais ça veut dire en tout cas que c'est la main de la CIA qui a tout fait dans votre histoire-là.
Je n'ai pas dit ça.
Mais bon.
Je pense que les services divers et variés, américains, soviétiques aussi et autres, ont joué leur rôle. Mais tous ces services-là passent leur temps, aujourd'hui encore, à monter des coûts qui généralement leur échappent et leur reviennent dans la figure comme un boomerang.
Là, ça a marché. C'est un coup qui est...
Mais ça ne marche pas à tous les coups, il faut le dire aussi. Ce qui est certain, c'est que si vous prenez le cas de la Roumanie, par exemple, qui avait une société civile en grande difficulté parce que le régime de Ceausescu était un régime très dur, on considère que les débuts de ce qu'on appelle la révolution roumaine sont plus un coup d'État qu'autre chose, une manipulation dans laquelle les services soviétiques jouent un rôle, dans laquelle les services américains jouent un autre rôle. Et je pense très honnêtement qu'on ne sait pas encore tout de ce qui s'est passé il y a 20 ans. Il faut le dire avec humilité. Je ne cesse de dire à mes étudiants, si vous apprenez très correctement l'allemand, l'anglais, le russe et le chinois, ce qui est un minimum évidemment, quand les archives seront vraiment ouvertes, alors on saura peut-être un peu plus de ce qui s'est vraiment passé. Parce qu'il y a plein d'ambiguïtés, on vient de l'entendre. En RDA, le parti s'est dans une certaine mesure lui-même sabordé. On peut dire la même chose de ce qui s'est passé en Hongrie, où c'est une révolution de palais. Quand en Roumanie, c'est particulièrement tragique, parce que la façon dont ça s'est passé n'est pas très brillante. Chacun se souvient ici de Timișoara, du faux charnier de Timișoara, avec cette merveilleuse manipulation de l'information. On a fait passer pour un charnier des corps qu'on venait de sortir du frigidaire, puisqu'ils avaient été autopsiés. Et je connais bien Radu Portocala, qui est un expert roumain, qui était dans les bureaux d'une des chaînes de télévision française quelques minutes avant que les images du faux charnier, mais on ne savait pas à l'époque, de Timișoara soient diffusées, comme expert roumain, et qui a téléphoné à un collègue en Belgique, médecin, qui voyait les images en direct à la télévision parce qu'elles étaient diffusées en direct à ce moment-là, et le médecin lui a dit « Attention, ça ne peut pas être des cadavres qui ont été tués en masse pour une raison simple, c'est qu'ils ont été autopsiés. Ça se voit au coup d'œil quand on est médecin. Or, quand vous tuez des centaines de personnes, vous savez de quoi elles sont mortes. Il n'y a aucune raison de les autopsier. C'est un non-sens. »
C'est un petit peu bizarre.
Il l'a fait savoir à la rédaction de cette télévision qui lui a dit « On ne peut pas ne pas passer ces images parce que si nous ne les passons pas, les autres vont les passer et on va passer pour des gens pas très sérieux. » Moyennant quoi, un mois plus tard, l'affaire de Timișoara est devenue clairement une pantalonnade et la presse n'a pas gagné en lectorat.
Tout ça n'est pas très glorieux. Alors est-ce qu'on pourrait pas dire que Mitterrand aurait eu peur d'une grande Allemagne unifiée? Ça l'arrangeait pas finalement est-ce que la France était...
Beaucoup de Français étaient peut-être en ligne sur cette position-là. Les relations entre la France et l'Allemagne sont complexes. Ce qui est certain, c'est qu'au début des années 90, en janvier 90, je crois, François Mitterrand fait une proposition qui consiste à construire une grande Europe qui inclurait, d'une part, les pays d'Europe centrale et orientale qui sont suspendus dans le vide à ce moment-là, et aussi l'URSS, et exclurait les États-Unis. Ce scénario était peut-être audacieux intellectuellement, en tout cas il n'a pas convaincu, puisque ce n'est pas ce qui s'est passé. Et il est clair que vouloir mettre hors jeu les États-Unis, alors que c'est eux qui venaient de gagner la guerre froide, n'était pas tellement tenable. Vouloir intégrer dans la maison l'URSS alors que les pays anciens satellites venaient d'en sortir, c'était leur demander de se tirer une balle dans le pied.
Bon, ça veut dire qu'on avait tout faux. Alors, Jérôme Vaillant, quelques secondes avant de passer à la question suivante.
Alors sur la question de Mitterrand à l'unité allemande, il y a en Allemagne même aujourd'hui quasiment deux écoles. L'une qui consiste à dire Mitterrand a voulu empêcher l'unification de se faire. Et aujourd'hui, avec les travaux d'un certain Chabord que je trouve à la fois intéressant mais excessif, l'idée que Mitterrand a tout fait pour permettre à l'unification de se faire. Alors peut-être trois mots pour rappeler les choses. Je ne pense pas que Mitterrand ait été véritablement enthousiaste à l'idée de voir un jour une Allemagne unifiée se faire. Mais il s'y était préparé, puisque il faut bien voir qu'il y a les propos que l'on traite à Mitterrand, puis les propos qu'il a tenus officiellement dès la fin de juillet 1940. 89, où il déclare dans un entretien au Monde, au supplément européen du Monde, que l'unification est dans l'ordre de l'histoire, que les Allemands y ont un droit au nom de l'autodétermination, mais que le jour où elle se fera, ce qui est déjà une façon de se dire, ça n'est peut-être quand même pas pour demain, elle devra se faire pacifiquement et démocratiquement. Et ensuite, dans les mois qui suivent, Mitterrand n'a pas cessé, au fond, de varier ses propos en les explicitant. Et lors de son voyage à Berlin Est, qu'il aurait mieux fait, à mon avis, de ne pas faire, par égard pour le gouvernement Kohl, par égard aussi pour les Allemands de l'Est, au fond, qui étaient déjà acquis à ce moment-là à l'idée d'unification, il était lui-même très embarrassé. D'abord, les services à l'Élysée étaient embarrassés, parce qu'ils savaient très bien qu'ils se rendaient dans un pays où les gouvernants, les personnes à qui on avait affaire pour préparer le voyage du président, changeaient d'une semaine à l'autre. Dans ces conditions, faire une visite d'État officielle était quelque part, je dirais, périlleux. Mais on voit bien que Mitterrand, au moment où il arrive à Berlin-Est, cherche à dire d'abord « je viens soutenir les forces d'opposition ». Et en même temps, dit aux Allemands à Berlin « vous avez droit à l'unité allemande ».
Alors, puisqu'on parle de Berlin, qui est finalement la ville symbole de la réunification allemande, Boris Grésillon, quels sont les particularismes de cette ville qui est unique au monde, en tout cas ?
Oui, c'est difficile de répondre à votre question en peu de temps, je vais m'y efforcer. C'est difficile parce que les particularismes de Berlin sont énormes. C'est sur le plan de l'organisation géographique, c'est à la fois une ville allemande, une ville européenne et une ville américaine. Parce que c'est une ville, pourquoi américaine ? Parce que au sens, c'est une ville extrêmement étendue, qui intègre ses banlieues dans son propre périmètre. Quand je dis extrêmement étendu, pour donner une idée à vos auditeurs, c'est quand même 880 km². Alors ça dit rien non plus à personne, y compris aux géographes. Ça signifie 45 km d'est en ouest sur à peu près 38 km du nord au sud. D'une urbanisation qui n'est elle-même pas continue. Il n'y a pas de continuum urbain à Berlin. C'est-à-dire que dans ces fameux 880 km², il faut imaginer que la ville intègre des lacs, des parcs qui sont en fait des forêts, que nous on appellerait forêts, qui sont de vraies forêts, où l'on se perd d'ailleurs, des choses assez étonnantes pour ce qui est malgré tout une ville. Donc, premier particularisme. Deuxième particularisme spatial, là aussi, de Berlin, et après je dirais quand même un mot sur l'histoire. C'est une ville qui a deux centres, ou qui n'en a pas, je n'en sais rien. En tout cas, le centre géographique, vraiment au sens presque géométrique du terme, c'est un vide, c'est le Tiergarten. C'est un grand parc en plein cœur de l'agglomération. Donc pour nous autres, Européens, c'est quand même quelque chose d'étonnant. On cherche le centre-ville et on tombe sur un immense parc. Et d'autre part, c'est une ville qui s'est construite selon, bon, évidemment, quand même un vieux centre historique à Mitte, qui ça signifie justement le milieu, mais aussi dès la fin du 19e siècle, avec un espèce de centre dédoublé à l'ouest du Tiergarten. Donc vous voyez, une ville très étonnante, hein, polycentrique, très étendue, en plus évidemment passablement détruite après 1945. Donc on avait, alors là on était en perte de repère total, il n'y avait plus de centre, il n'y avait plus de banlieue, il n'y avait plus de ville. Et en plus, une ville qui, à partir de 1949, a été divisée en quatre secteurs, hein, comme on coupe un gâteau en quatre. Donc une ville divisée en quatre, et puis ensuite en deux, à partir de 49, et surtout à partir de 61, puisqu'on avait donc, soit 1961, la construction du mur, et nous avions donc un Berlin est-allemand, on va dire, piloté quand même par la puissance soviétique, et de l'autre, trois secteurs occidentaux, qui était directement administré par les trois puissances occidentales. Il ne faut jamais l'oublier, c'est-à-dire les États-Unis, l'Angleterre et la France. Donc vous voyez, une ville extrêmement étrange qui a perdu son statut même de ville et de métropole quand même pendant 40 ans.
Alors une dernière question très rapide. Est-ce que la ville a été le laboratoire de la réunification et en termes culturels ? C'est-à-dire que finalement, est-ce que c'est la culture qui a été le ciment de cette réunification ? Et alors, en 2 minutes, 30 secondes.
Vive la radio.
Ah, c'est l'exercice.
Oui, hein. C'est l'exercice. Donc je m'y prête volontiers. Moi, je pense quand même que Berlin... Enfin, on peut dire que Berlin a constitué une espèce de laboratoire in vivo de l'unification allemande. Pour une raison très simple. C'est que c'était finalement la seule ville qui était traversée par le mur. Donc, à partir du moment où le mur tombe, vous avez dans la même ville des gens qui se regardent d'abord en chien de faïence, les Berlinois de l'Est et les Berlinois de l'Ouest, et puis qui finissent quand même, par la force des choses, par être obligés de se parler, y compris en termes de dialogue conflictuel. Et c'est là où les artistes, je pense, ont joué un rôle important, parfois même à leur insu, c'est-à-dire en mettant en scène, en mettant sur scène, sur les scènes de théâtre ou en peinture, les conflits, finalement, les conflits identitaires est-ouest qui étaient très forts, mais à force de les mettre en scène, c'était une façon de les travailler. À force de les porter sur les scènes d'un théâtre, c'était quand même une façon de dire, c'était une façon de travailler à cette unification allemande qui était très complexe et qui n'est pas terminée.
En tout cas, merci à Boris Grésillon, Jérôme Vaillant et Pierre Verluise d'avoir participé à cette émission. À l'Est du Nouveau, tout le cycle de rencontres dans le cadre de Europe XXL de Lille 3000, c'est du 27 mars au 27 juin à la Bibliothèque municipale de Lille. Un téléphone pour se renseigner, c'est le 03 20 15 97 20.